la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la semaine de l'innovation, le laboratoire d'apprentissage du CNFPT organise un séminaire d'exploration pendant lequel des chercheurs universitaires et des acteurs territoriaux vont tenter de répondre à la question suivante. Comment développer ensemble des territoires capacitants et faire émerger chez chacun et dans les organisations territoriales les savoirs de ce 21e siècle? Le défi de ces deux jours vous étant maintenant énoncé, j'ai le plaisir de recevoir Brieux du Roscouette, chercheur travaillant sur les compétences transversales et la transformation des organisations du 21e siècle. À l'occasion de cette échéance, il va partager avec nous son point de vue sur la question posée. Bonjour Brieux.
Bonjour Jean-Michel.
Brieux, pouvez-vous vous présenter brièvement?
Oui, bon, je m'appelle Brieux du Roscouette. Je suis chercheur en psycho et j'étudie les compétences transversales. Alors plus précisément, j'essaye de comprendre quelles sont les compétences qui amènent à innover et à transformer les organisations. Et ça, c'est d'une part. Et une deuxième part, en fait, j'essaye aussi de comprendre quels sont les environnements qui favorisent le développement de ces compétences. Alors, essayer de comprendre, c'est une chose, mais ce qui m'intéresse plus, c'est de modéliser tout ça, de mesurer, de manière à avoir des indicateurs fiables sur les compétences transversales qu'on appelle aujourd'hui des soft skills.
Lorsque vous parlez de compétences transversales, ça veut dire que vous les identifiez, vous essayez d'avoir le maximum de variété de compétences permettant d'aller vers l'innovation, et donc ça veut dire que chaque être peut avoir une approche ou des compétences diverses et variées, ou alors il y a des standards de compétences ou des compétences nécessaires.
Alors, superbe question, je vais vous répondre un peu en faisant mon histoire, pourquoi je suis arrivé un peu à cette recherche. Moi, principalement, j'ai aussi un parcours d'entrepreneur et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que l'innovateur a-t-il une façon de traiter l'information différente en matière cognitive? Voilà, donc ma première démarche de recherche, c'était est-ce que de comprendre si l'innovateur avait une façon différente de traiter l'information. Et j'en suis venu à mes recherches, finalement, en interrogeant plus de 200 innovateurs. Alors, innovateurs sur deux pôles. Un, ceux qui innovent dans les grandes entreprises, ok, et les intrapreneurs, ce qu'on appelle, et ceux qui innovent avec des startups, donc les CEO de startups. On a fait passer 200 entretiens chacun. Derrière, on leur a fait passer un ensemble de tests pour comprendre, finalement, quelles étaient les compétences nécessaires ou pas dans un modèle de transformation et d'innovation des entreprises. Et donc, dans ce modèle-là, on a des facteurs individuels, hein, donc facteurs cognitifs, c'est-à-dire la manière dont on traite l'information, dont le cerveau traite l'information. Deuxièmement, des éléments, ce qu'on appelle conatifs, c'est le passage à l'action. Voilà, comment on passe à l'action. Troisième élément qui est central, c'est l'intelligence émotionnelle, quelle typologie de compétences on a besoin en termes d'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est l'individu, mais on n'innove jamais seul. On innove en groupe, ensemble. Donc il faut une intelligence émotionnelle. Aussi, c'est sur ces éléments d'intelligence émotionnelle qu'on a repéré un ensemble de compétences. Mais on s'est aperçu que, ok, c'est bien d'avoir des grands repères des différentes compétences que j'ai développées tout à l'heure dans des phénomènes d'innovation et de transformation, mais qu'elles étaient surtout liées et aussi avec l'environnement. Donc on a essayé de comprendre quels environnements permettaient le développement de ces compétences très précises. Voilà. Donc, on étudie aussi l'environnement. Donc, il y a l'individu, voilà, l'individu en relation avec les autres, qui est pris dans un environnement très précis. Je donne un exemple très rapide. Demain, si je vous mets dans un placard, je verrai s'effondrer un ensemble de vos compétences. C'est pas l'objectif. Lors d'une transformation ou d'innovation, on a besoin de mobiliser un maximum de compétences qui sont pas les compétences habituellement apprises à l'école, mais je vais en parler plus tard, un autre ensemble de compétences qui permettent de passer d'une étape A à une étape B. Et ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les compétences mobilisées voilà, pour arriver dans ces éléments-là.
Alors, je viens de vous entendre. Ce que je constate, c'est que là, vous parlez de compétences à un instant T, mais la personne que vous observez est un adulte.
Tout à fait.
D'accord. Donc, voilà. Ça, ce que vous venez de dire, vous avez parlé de l'école, etc. Ça veut dire que les compétences, l'acquisition de compétences se construit tout au long d'une vie.
Tout à fait. Exactement. Et ça, c'est central. C'est-à-dire que, en fait, je reprends un exemple justement là-dessus, vous avez très bien dit, sur les éléments cognitifs, donc la manière dont on traite l'information, dont le cerveau traite l'information. Aujourd'hui, l'école va muscler, je pourrais dire comme ça, une certaine typologie de muscle qui est la logique. Alors, pour passer les examens, vous avez surtout besoin d'une pensée logique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans l'innovation, chez les innovateurs et ceux qui transforment les organisations, on a d'autres mouvements qui sont très importants. Ils sont évidemment la pensée logique qui est importante dans la mise en œuvre. Mais c'est surtout d'autres compétences qui sont importantes, c'est la pensée intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on y met derrière la pensée intuitive? C'est la capacité à utiliser ses expériences antérieures de manière à prendre rapidement une décision. Donc, on voit qu'on capitalise là-dessus. Mais pas seulement.
C'est la capacité. Ça concerne pas la précocité?
Oh, si. Beaucoup de choses peuvent aussi. Sur les hauts, ce qu'on appelle les hauts potentiels, les zèbres, on retrouve ce que je vais vous dire sur ces éléments-là. Mais aussi, c'est la capacité à diverger. Vous êtes face à un problème. La première réflexe que vous avez souvent, c'est de diverger. C'est-à-dire essayer d'explorer différentes situations. Voilà. Et après, il faut bien traiter le problème, donc on converge. Donc c'est aussi ce muscle divergence, convergence, qu'il est important d'observer. Et tout ça, c'est aussi être en capacité d'être flexible mentalement. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne une nouvelle information, eh ben, de savoir un peu pivoter, changer. Voilà. Et ça, c'est des éléments. Donc, ces cinq éléments-là sont des éléments cognitifs importants qu'on retrouve chez ceux qui transforment et innovent. Voilà. Dans la fonction publique et ailleurs, hein, d'ailleurs. Mais pas seulement. Ça, c'est qu'une dimension qui est la dimension cognitive. Il y a d'autres dimensions qui sont les dimensions, les facteurs cognitifs, donc la mise en action. Voilà. C'est la capacité d'extraversion. De dire un peu ses sentiments, de montrer aux autres. La conciliation aussi, qui est un élément important. Souvent, on est sur des territoires où il faut concilier à la fois l'information, qui est de plus en plus complexe, à la fois le territoire lui-même, qui est de plus en plus complexe. Voilà, et tout ça, il faut encore un truc, il faut persévérer, parce qu'on sait que dans des actions de transformation, eh ben, la persévérance est un élément important. Mais pas seulement, il y a aussi la capacité à être ouvert aussi à d'autres informations. La motivation, évidemment. Et autre facteur clé, c'est ce qu'on appelle la tolérance à l'ambiguïté. Alors ça, c'est un élément auquel je voudrais un peu revenir, parce que c'est peut-être moins connu, mais la tolérance à l'ambiguïté, c'est la capacité à finalement faire avec des informations contradictoires. Voilà, j'ai une information qui vient d'ailleurs, j'ai une autre information qui vient d'un autre endroit, elles sont contradictoires, comment je fais avec? C'est la capacité justement à pouvoir faire malgré cette contradiction. Et quand on a une tolérance à l'ambiguïté très très faible, eh ben on est bloqué. On est souvent bloqué, voilà. Et comment on arrive à dépasser ça? Voilà.
Est-ce qu'il y a en parallèle, lorsque vous parlez cette capacité à l'ambiguïté, ça veut dire qu'il y a aussi la dimension émotionnelle qui intervient dans le traitement de l'information?
Évidemment, ça on le reviendra sur un autre élément, mais l'intelligence émotionnelle est clé. Là, je reviens. L'ambiguïté, elle est dans plus qu'au natif, hein, dans la façon de faire, et elle est surtout présente chez les hauts managers. Alors, ce qu'ils ont appris à faire, c'est justement à apprendre à ce qu'ils ont comme information, je dirais, d'en haut, et ce qu'ils ont leur formation plus du terrain à pouvoir agir malgré ces contradictions. Mais aussi un autre élément, c'est il faut être en capacité de prendre des risques aussi, parce que on transforme pas sans prendre des risques. Donc il faut avoir aussi cette capacité-là. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est une multitude en fait de d'éléments, d'ingrédients, je dirais, qui constituent des compétences transversales pour innover ou transformer les organisations. Et il y a un moment où je veux vraiment revenir vers ce que vous avez dit, c'est les facteurs émotionnels, qui sont évidemment ultra importants. Alors ultra importants pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on analyse un ensemble de profils, on s'aperçoit que dans la fonction publique, on a des marqueurs très forts de ce côté-là, plus forts que dans le secteur privé. En particulier sur les notions d'empathie, qui sont plus développées. Alors, je veux revenir sur ce point.
C'est lié au fait que l'environnement les laisse se développer ou se montrer par rapport au privé qui plutôt ne permettrait pas de montrer qui on est.
Non, non, c'est plutôt ce que non, c'est des marqueurs forts qui font que moi, si je travaille avec le service public, c'est que j'ai un sens élevé de ce qu'est l'intérêt général. C'est que c'est des éléments essentiels pour moi qui me donnent du sens. Alors, quand, pourquoi? Parce qu'on pourrait être 30, 40 ou 50 fois, 50% payé dans le privé plus, même fois 3 par moment en termes de salaire. Non, ce que je veux définir de l'empathie, c'est qu'il y a deux notions d'empathie. Il y a l'empathie, c'est quoi? Il y a l'empathie cognitive, c'est comprendre le besoin de l'autre. Voilà, je te comprends, quel est ton besoin. Voilà. Et il y a l'empathie affective. L'empathie affective, c'est je ressens tes émotions. Alors, faut bien comprendre que ces deux éléments sont liés, mais parfois sont aussi pas du tout liés. Voilà. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que chez les agents de la transformation publique, on a des marqueurs très forts du côté de l'empathie, ce qui rend plein d'espoir sur comprendre le besoin de l'autre et peut-être mettre au centre l'usager. Alors sur les autres facteurs émotionnels qui sont marquants chez les gens qui transforment et qui innovent, c'est la positivité aussi, parce qu'on n'innove jamais seul, hein, c'est très dur. Faut embarquer une équipe, voilà. Donc faut être positif.
Donc tout ce que vous m'avez dit, le nombre, toute cette variété de compétences, on est d'accord qu'elles ne peuvent pas être... Enfin, c'est très rare si elles sont que dans une seule personne. Donc on en revient, il faut une équipe où pléthore de ces compétences se retrouvent.
Exactement, il faut qu'elles se complètent. Et puis, on n'est jamais l'être parfait, ça ne sert à rien. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une variété de profils. Mais quand même, de comprendre qui on est, où on veut aller et quelles sont ses compétences, ça nous, quand même nous permet d'avoir des points d'attention vis-à-vis de soi-même, des points d'intérêt. Voilà. Donc je dirais qu'il y a un message important, c'est bien se comprendre, mieux comprendre ses compétences et aussi vouloir les développer sur certains points. C'est essentiel dans la transformation et dans l'innovation. On parle souvent d'innovation en tant que processus. Oui, bah, ok, certes, il y a des processus, mais c'est surtout un état d'esprit, c'est mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Et ça, c'est essentiel. Donc, les aspects aussi au centre de marqueurs, c'est de l'intelligence relationnelle, qui sont la capacité à communiquer et...
C'est aussi un moyen de pérenniser les efforts faits, quoi.
Oui, voilà, coopérer aussi, parce qu'on est, encore je dis, je me répète, jamais seul.
Alors, revenons au défi, si vous voulez bien, du séminaire.
Ouais.
En tant que chercheur, donc travaillant sur les compétences transversales et les transformations d'organisation, comment, d'après vous, peut-on construire ce maillage entre l'innovation publique qui est une somme de projets que peuvent avoir des partenaires territoriaux et le monde de la recherche? C'est dans le montage de ces équipes.
Oui, alors déjà, il y a des vrais projets. Voilà, on embarque beaucoup d'équipes. On embarque du monde sur des vraies problématiques qui sont pas éthérées mais qui sont concrètes. Voilà, donc on est au-delà de la simple recherche, on est dans l'action surtout. Et aujourd'hui, comment on fait? Ben, c'est relativement simple. C'est déjà déterminer une vraie problématique parce qu'on n'intervient pas à un endroit où on n'essaye pas de comprendre la problématique et de la réinterroger. Mais de mon côté, moi, j'interviens plus sur des problématiques de transformation complexe au niveau soit des DRH, de la DG et aussi des équipes. C'est-à-dire qu'il faut
vous,
pas.
Qu'est-ce que vous appelez transformation complexe? Moi, venant des maths, complexe, ça a un sens. Quelle est la définition de la complexité en organisation?
Alors, la définition de la complexité aujourd'hui, c'est aujourd'hui le problème de la transfo, c'est qu'on est on est sur une transfo. Alors derrière, la deuxième transfo n'a déjà pas été finie. Donc, on est en perpétuelle transfo de transfo de transfo.
Dans transfo des environs. Égale transformation.
Voilà, oui, transfo égale transformation. Avec un monde qui va de plus en plus plus vite hein, et qui est de plus en plus flou, avec des métiers qui sont de plus en plus complexes. Où autrefois, on demandait à un opérateur entre guillemets d'avoir une tâche pour une action, et aujourd'hui, on demande à cet opérateur d'avoir 10 tâches et 10 actions. Voilà. Ça, c'est une chose qui est vraiment important de comprendre, c'est que le monde du travail change vraiment d'une manière profonde et très rapidement. Ça, c'est après pour le 2G, c'est de comprendre un peu dans quel contexte il est lui, c'est-à-dire quels sont le contexte de ses équipes, où elles en sont, comprendre quel est le soutien qu'il peut leur apporter, est-ce qu'ils sont, ils collaborent bien ensemble. Est-ce que les équipes en intra, les équipes fonctionnent bien ensemble? Est-ce que en inter-équipe, ça fonctionne bien ensemble? Est-ce qu'il les soutient? Voilà. D'avoir un ensemble de métriques qui puisse lui apporter une meilleure compréhension du terrain sur lequel il va agir et actionner. Donc, mieux comprendre ses équipes, la moyenne de ses équipes permettra de lui amener plus d'informations sur sa capacité à prendre des décisions éclairées. Et il y a un moment, c'est, je dirais, tout simple, c'est si on n'a pas de métriques, c'est un peu comme quelqu'un qui veut perdre du poids, s'il n'a pas de balance, il en est où? Bon, aujourd'hui, la transfo, on en est un peu là. C'est-à-dire, on n'a pas de métriques, donc on ne sait pas où on en est, donc on fait un peu au doigt mouillé. Donc, ce que j'essaye, c'est de comprendre que il faut prendre, c'est que la perception des équipes sur le terrain, sur la manière de manager, est hyper importante pour pouvoir mener une transformation. Voilà. Et donc, je récolte différents éléments de la perception des équipes sur le terrain de manière à pouvoir éclairer la transformation de l'entité ou de l'organisation. Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est au niveau de la DG. Mais il faut pas scinder la DG et puis et après dire les agents, les autres, voilà. Non, une vraie question de transformation, déjà, elle se fait en douceur, se fait à un rythme pas trop rapide parce que ça brusque les gens. Et dans ce cas-là, on a la réticence importante. On entache du conflit. Non, c'est dans le consensus et ensemble qu'on se transforme. Donc le DG a des indicateurs, mais il faut aussi que les agents.
Alors, DG, pour les auditeurs, c'est la direction générale.
Oui, oui, tout à fait.
Ou le directeur général.
Oui, oui, tout à fait. Mais donc qui est souvent après. Mais il faut aussi les équipes. C'est-à-dire les équipes. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner là-dedans? Leur donner aussi un peu de sens. Voilà. Leur donner un peu de sens, c'est aussi mieux se connaître, mieux comprendre quelles sont les actions de leurs compétences et montrer que même si leur métier évolue demain, qu'ils ont un ensemble de compétences qui leur permettra d'évoluer, voilà, et donc les rassurer par rapport à ça. Donc derrière, on a des programmes de formation, donc là c'est les RH qui on organise avec eux des programmes de formation sur leur capacité à développer leurs compétences. Ça, c'est important, ils prennent confiance en soi. Mais ça, c'est une chose. Mais une deuxième chose, c'est mieux se connaître, mais mieux travailler ensemble. Souvent, je vois des personnes qui sont exactement sur le même bureau, font exactement le même métier depuis 2 ans, et qu'on leur demande ce qu'elles font, et on s'aperçoit qu'elles font 2 métiers différents, alors qu'elles sont sur ce même bureau. Aujourd'hui, on crée les murs entre les équipes, entre les individus, d'une manière même inconsciente, font qu'elles n'arrivent plus à travailler ensemble. Voilà. Alors, voilà. On leur apprend aussi, à travers les compétences, à revoir leur métier pour qu'ils retravaillent ensemble. Voilà. Et donner du sens à tout ça, c'est très important. Et
vous revoyez aussi le manager?
Évidemment. Donc, il y a le manager, donc ça. Alors, ça, les agents, le manager qui comprend aussi, qui doit être formé sur la manière de comprendre une transformation, c'est-à-dire, ok, je prends une décision. Certes, tu prends une décision. Mais quelles conséquences elle a, ces décisions? Comment il faut la prendre? Comment il faut l'amener? Comment il faut communiquer auprès de son équipe? C'est tout aussi important de savoir bien communiquer auprès de son équipe. Voilà, c'est que le contenu est très important, mais le contenant est important. Donc, on forme aussi les managers à manager cette transition. Voilà. Et ça, c'est un élément très important parce que on intervient sur des éléments profonds de l'individu, profonds de l'équipe, sur un changement de culture. Et il faut comprendre donc qu'un cerveau, comment ça fonctionne, mais rapidement. Hein, je parlais tout à l'heure en exemple très concret. Je parlais tout à l'heure principalement depuis 50 ans, on donne une tâche à quelqu'un et il a une fonction pour cette tâche. Mais aujourd'hui, on lui donne 50 tâches et 50 fonctions. Finalement, ce que le manager perçoit, souvent ce qu'on a vu, c'est « Ah bah ouais, mais au moins il fera plus la même chose, c'est vachement plus intéressant comme boulot. » Oui, certes, sûrement, de ton point de vue. Mais du point de vue de l'individu qui fait des tâches, lui, cognitivement, ça lui demande énormément d'énergie. Voilà. Donc c'est très prenant, c'est très compliqué. C'est des passages très compliqués. Et si tu lui donnes pas du sens, et tu l'expliques pas pourquoi il fait ça, et dans quelles conditions, eh ben là, il va bloquer.
Il remplit le temps de travail, mais il n'a pas le temps d'apprécier ce qu'il vient de faire.
Exactement, il n'a pas ça. Donc c'est important de travailler là-dessus, de comprendre que le cerveau, naturellement, c'est un gros feignant. Ça, faut pas l'oublier chez beaucoup de monde. C'est-à-dire que la fonction qu'on a, c'est de comprendre que on est là pour survivre. On était programmé pour ça. Et donc, cognitivement, le cerveau, quand il est habitué à le traitement d'une tâche, il l'automatise et ça lui demande moins d'énergie. Donc, qui dit survie, dit dépenser moins d'énergie.
Non, oui, c'est un réflexe, vivre voilà. L'économie.
Exactement, tout à fait.
Tout comme la réflexion, d'ailleurs.
Exactement.
On marche plus, on fonctionne plus en allant chercher des modèles de pensée qu'en les réinventant à chaque fois.
Tout à fait.
Bon, écoutez, merci Brieux. Hein. Auriez-vous un exemple pratique à fournir après ces longues explications?
Alors, là, c'était pas réellement des explications. J'essayais de visualiser sur lesquels modèles on intervenait réellement. Donc, si je veux des explications sur des modèles où on intervient réellement, c'est ça? Sur des cas concrets.
Non, là, je voudrais un exemple, par exemple, d'intervention où quelqu'un comme vous qui travaille sur les compétences transversales et les organisations peut apporter sa contribution dans un projet innovant chez quelqu'un.
Oui, parce que là, ce dont je vous parlais avant, c'est des missions qu'on a en ce moment, quoi.
C'était pas théorique.
Ah, c'est pas du tout théorique. C'est du vrai vécu et de la vraie. Non,
dans ce cas, ce genre d'études, ça dure combien de temps?
Alors, ça varie, mais là, on était sur une étude, on a fait des bêta-tests d'un an qui ont été super positifs. Donc là, on est passé sur des contrats de 3 ans. Donc c'est long, on sait que c'est long, voilà.
Mais c'est nécessaire.
Mais on peut pas transformer en 2 mois, quoi. Ça dépend des tailles, évidemment, critiques. On peut transformer plus rapidement, ponctuellement, sur comprendre les effets leviers. Et on a des outils très puissants qui nous permettent de comprendre aujourd'hui, de mapper ces compétences, de pouvoir comprendre tous ces mécanismes-là. Donc, de pouvoir intervenir là-dessus. Mais quand on est sur des actions de très grosses équipes, ça met du temps, ça met beaucoup de temps et pourquoi? Parce que on peut pas prendre une globalité tout le monde. C'est-à-dire on prend des poches d'équipe par équipe. Je donne par exemple concrètement pour mettre en place les formations. Ok, on les met en place, mais il faut communiquer. Donc ça, c'est une chose. Donc ça prend dans une administration ou dans un EPIC ou un EPA entre 3 et 6 mois entre la création d'une formation et sa communication. Rien que pour voir ça. Mais avant tout ça, eh ben, faut bien avoir fait un diagnostic. Donc ça dépend vraiment de la taille. Voilà, pour pouvoir avoir un impact sur l'organisation.
Bayeux, au regard de l'exemple que vous venez de nous donner, je suppose que le chercheur que vous êtes avait besoin de certaines conditions préalables, que certaines conditions préalables soient remplies par votre futur partenaire ou votre commanditaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce qu'il faut simplement un cahier des charges ou est-ce que vous avez besoin d'autres informations?
Oui, non, mais c'est alors déjà, je me vis pas comme chercheur, voilà, mais je suis aussi un chercheur, mais je me vis pas du tout. J'ai une expérience longue avant d'être chercheur, et aujourd'hui on est une équipe qui intervenons, et les préalables avant, ils sont humains. Voilà, ils sont humains. C'est, on a envie de travailler ensemble, on n'a pas envie de travailler ensemble. Après vient le cahier des charges, etc. Mais la première chose qui est, c'est j'ai envie de travailler avec toi, t'as envie de travailler avec moi. C'est tellement complexe, c'est tellement un combat, c'est tellement donné de soi que si ça se résume à je dirais un
si
cahier des charges,
de service,
ouais, ben ça m'intéresse pas. Donc je le fais pas et on le fait pas. Et je crois que c'est important de comprendre ça.
Oui, effectivement. Brieux, notre émission touche à sa fin. J'ai une dernière question à vous poser. Celle-là, vous la
connaissez,
ne saviez pas. Si vous aviez 2 ou 3 conseils à donner à nos auditeurs,
ouais,
afin qu'ils n'hésitent pas à travailler avec le monde de la recherche à l'occasion de la conception ou de la mise en œuvre de projets innovants, ce seraient lesquels?
Alors, déjà, le monde de la recherche est particulièrement compliqué. Donc là, je vais vous parler uniquement de ce que nous, on a mis en place, qui est au sein d'ITI, et de l'Institut ITI. Mais si j'avais des conseils, c'est le timing. Déjà, la notion du temps. Le problème de la recherche, c'est qu'on en est dans une temporalité qui est très particulière, qui est un peu longue. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé une spin-off qui nous permet de lutter un peu contre cette temporalité. Fait que la recherche, donc l'université aussi, souffre des mêmes maux, évidemment, et quelquefois plus fort que, je dirais, que l'administration au sens très large même. C'est-à-dire que quand vous avez 3 juristes pour formaliser un contrat, ben ça met 6 mois rien que pour une signature. Voilà, c'est plein de complexités administratives.
Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait, donc il faut s'y prendre à l'avance.
Ah, mais ça, c'est sûr.
Il y a des lenteurs administratives.
Ouais.
Et après, donc, la question que je me pose, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a, dans le rôle de quelqu'un qui a une idée et qui voudrait la développer,
ouais,
faire un projet innovant, c'est comment est-ce qu'on vous contacte? Comment on sait que vous existez? Est-ce qu'il y a des plateformes? Est-ce qu'il y a des réseaux qu'il faut solliciter pour atteindre ces gens qui ont des compétences dans le monde de la recherche?
Tout à fait.
Comment ça se passe? Parce que ben, c'est pas public, c'est... ça.
Oui, voilà, exactement. Aujourd'hui, on souffre un peu de ça, c'est-à-dire que moi principalement dans nos actions on intervient parce qu'on est connu dans notre domaine, mais voilà, il n'y a pas d'action commerciale ni rien du tout, mais votre question elle n'était pas celle-là, elle est comment un acteur public peut travailler avec le monde de la recherche, et je pense que là, il y a une vraie question, parce que c'est pas simple, alors que ça devrait l'être, beaucoup plus simple. Voilà. Mais là, c'est encore un autre débat, et je pense que c'est pas l'objet de la... De...
C'est parce qu'il y a un mythe, d'ailleurs, la recherche, le chercheur, il représente quelque chose qui est ailleurs, il est hors sol, pour monsieur tout le monde. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'ose pas le solliciter, ou alors on a peur de le solliciter, de peur de pas comprendre ce qu'il va nous dire?
Non, c'est déjà faut savoir avec qui on a envie de travailler, avec quel chercheur. Je pense que c'est plus simple de faire de l'intuitif personnel directement si on a Voilà, je saurais pas répondre très bien à votre question, si ce n'est que c'est très compliqué et que c'est un des éléments qui devrait être aujourd'hui ou demain plus simple, c'est justement de faciliter cette relation entre la recherche et l'action terrain et voilà. Et un peu que le chercheur ait un mindset un peu plus proche du terrain et que le terrain aussi puisse aller plus vers la recherche pour faire vraiment naître des actions opérationnelles qui génèrent de la valeur parce que on n'est pas le voilà parce que notre but il n'est pas de chercher pour chercher quoi.
Oui, mais je pense que les chercheurs maintenant sortent du monde universitaire pour aller vers
plus en plus,
le ouais. monde pour aller rencontrer le monde plus notamment plus, territorial. Ouais.
Hein. Ah oui heureusement.
Écoutez, merci Brieux du Rosquat pour les éléments de réponse que vous venez de partager avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur travaillant sur les compétences transversales et sur la transformation des organisations de ce nouveau siècle.
Ouais.
Quant à nous, chers auditeurs, je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur radio.cnfpt.fr. À bientôt.
À bientôt. Et... au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.